Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons parler de la royauté de Dieu le jour de Rosh Hashanah, d'une manière générale de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, puisque le jour de Rosh Hashanah, vous savez bien, c'est ce que nous proclamons. Nous proclamons en réalité la royauté d'Hashem, la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le jour de Rosh Hashanah, on ne demande pas pardon à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de Tachanoun. Comme beaucoup de gens se trompent, il y a en réalité une seule chose qui domine ces deux jours de Rosh Hashanah. Et cette chose-là est tout simplement proclamer Dieu roi de l'univers. Est-ce qu'il a besoin d'être proclamé? Il est déjà roi. Est-ce qu'il a besoin de nous qu'on le proclame roi? Et pourquoi ça se passe ce jour-là? Et que représente en fait cette royauté? Qu'est-ce qu'elle vient induire? Qu'est-ce qu'elle vient dire? Qu'est-ce qu'elle vient donner comme nouveauté dans le monde? Alors, j'ai écrit un petit cours qui va un petit peu résumer. Bien entendu, il y a beaucoup de choses à dire. Qui va résumer en réalité le sujet de la royauté, puisque c'est le sujet principal, Malchuyot. Alors pour ceci, nous allons commencer par citer une Gemara qui se trouve dans le traité de Rosh Hashanah à la page 16. La Gemara dit là-bas, là je vous ai apporté juste un extrait, c'est Rabbi Akiva qui parle, et il dit quelques degrés en réalité, quelques nouveautés. Je vous cite les degrés que vous n'avez pas ici marqués. Akadosh Baruch Hu demande, Haviu alay Omer bePesach, apportez le Omer, la mesure d'orge, pendant Pesach. Pourquoi? Pour que l'année sera bénie. C'est-à-dire que vous allez avoir une bénédiction dans les champs. Parce que vous allez faire cet acte d'apporter le Omer, moi, Akadosh Baruch Hu, je vous promets une bénédiction dans vos champs, dans vos récoltes. Après, Akadosh Baruch Hu demande autre chose, pour une autre fête. Apportez deux pains le jour de Shavuot. Vous savez que le jour de Shavuot, en plus du Korban, on apportait deux pains qu'on ne mettait pas directement sur le Mizbeach, mais qu'on mangeait en même temps avec le Korban. Et ces deux pains, en réalité, qui étaient Chametz, alors que généralement, sur le Mizbeach, on apportait que des Matzot. Eh bien, le jour de Shavuot, on apporte deux pains pour représenter le degré d'homme auquel nous sommes arrivés après être sortis d'Égypte, alors que nous étions dans un degré animal, et donc on mangeait de l'orge. On est arrivé à Chag HaShavuot où on mange du blé. L'orge, c'est un aliment pour les animaux, et le blé, c'est un aliment pour les hommes. On fait avec le blé du pain. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous m'apportez deux pains le jour de Chag HaShavuot, au Beth Amikdash, eh bien, moi, je vais vous bénir les fruits de vos arbres. Il y aura plus de fruits dans les arbres l'année qui va venir. Encore une chose, tout ceci, c'est Rabbi Akiva qui nous le dit. Akadosh Baruch Hu demande, apportez Nisru Lefanaï Maim Bachag, versez de l'eau sur l'autel de sacrifice pendant Chag. Chag, c'est Sukkot. Si vous faites, en fait, vous versez de l'eau dans des petits orifices qu'il y avait dans l'autel de sacrifice, eh bien, moi, je veux vous apporter beaucoup d'eau, c'est-à-dire vous aurez une année pleine de pluie. Et, dernier degré, celui que vous avez ici, Amar HaKadosh Baruch Hu, Imru Lefanaï Berosh Hashanah Malchuyot, le jour de Rosh Hashanah, dites devant moi, proclamez des royautés, proclamez-moi roi, dites que je suis le roi, zichronot, et rappelez certaines choses, qu'on va devoir expliquer quoi, zikaron, hein, une mémoire, un souvenir, veshofarot, et sonnez du shofar. Et le texte termine de cette Mishnah, de cette Gemara, Rabbi Akiva dit, malchuyot kedeshetam lichuni alechem, pourquoi vous devez me proclamer roi? Pourquoi vous devez dire, citer des versets qui parlent de royaume? Mais tout simplement pour me proclamer roi sur vous. Vous acceptez que je suis votre roi. Zichronot, quels sont les versets que vous devez dire concernant les souvenirs? Pour que je me souvienne de vous. Vous allez me citer quelques versets de souvenirs, qui parlent de souvenirs, et moi, Kadosh Baruch Hu, je me souviendrai de vous, en bien. Ubame, et comment je vais faire tout ça? Comment vous allez faire tout ça? Bashofar, avec le shofar. Alors, c'est une Gemara qui paraît un petit peu compliquée, je vous la résume. Rabbi Akiva nous dit dans la Gemara une nouveauté, il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'apporter plusieurs sortes d'éléments de notre monde pour que l'année qui va venir sera bénie par un ou autre chose. À Pessah, si vous m'apportez du Homer, eh bien je bénirai vos champs. À Shavuot, si vous m'apportez les deux pains, eh bien vous allez être bénis au niveau des fruits de vos arbres. À Sukkot, si vous versez de l'eau sur l'autel de sacrifice, je vous donnerai beaucoup de pluie. Et à Rosh Hashanah, si vous dites ce que je vous ai demandé de dire, qui est marqué dans vos marzorim, dans vos livres de prière, eh bien moi, je vais me souvenir de vous comme une nation qui est bonne. Rabbi Akiva ici est en train de nous enseigner quelque chose de très important. Quelle est cette chose que Rabbi Akiva nous enseigne? C'est que chaque fois qu'on arrive à une fête, on fait quelques actions, on récite certaines choses, et grâce à ces actions et aux choses qu'on récite, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous donne une bénédiction. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est dans une fête juive du calendrier, il y a un bien supplémentaire qui arrive dans le monde, et chaque fois ça change. Un coup c'est les fruits de l'arbre, un coup c'est la pluie, un coup c'est les champs. C'est une bénédiction dans le monde dans lequel nous sommes. Alors, on va développer ça sur texte. On est à la quatrième ligne. Mitzvot meviot bracha beikvotem. La conclusion qu'on tire de ce qu'on vient de voir, c'est que les mitzvot que nous faisons apportent avec elles des bénédictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait une mitzvah en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire faire une mitzvah? De quelle racine vient le mot mitzvah? Quelle est la racine? Un ordre. Ça c'est tzivoui. Qu'est-ce que c'est une mitzvah?
Servir Dieu.
Un commandement. Ça c'est la même chose. C'est ordre, c'est tzivoui. Servir Dieu, c'est Eved, c'est charitable, non? Quelle est la racine du mot mitzvah? Vous avez entendu parler d'un équipage? Un équipage se dit, quand vous êtes dans un avion, il y a l'équipage qui s'appelle Sevet. Sevet. Ça veut dire que le mot mitzvah vient du mot équipage. J'explique. Quand je fais une mitzvah, quand je réalise une mitzvah, je deviens dans la même équipe qu'Akadosh Baruch Hu. Je rentre dans son équipe. Je fais un avec lui. J'approfondis. Un petit peu plus. Lorsque je te demande d'aller me chercher un verre d'eau, est-ce que je suis à l'intérieur de toi? Ou une fois que tu es sorti de cette pièce pour m'apporter ce verre d'eau, je suis en dehors du verre d'eau? Je suis en dehors du verre d'eau. Je t'ai demandé de m'apporter un verre d'eau. Toi, tu me fais l'ordre d'aller chercher un verre d'eau que je t'ai demandé. Chez Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le cas. Quand Akadosh Baruch Hu nous demande de mettre les tefilines, eh bien, il n'est pas en dehors des tefilines. Akadosh Baruch Hu rentre dans la mitzvah que tu es en train de faire et il circule à travers ta mitzvah et à travers toi-même pour rentrer dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, il y a plus de divin dans le monde. Donc Akadosh Baruch Hu pénètre le monde dans lequel nous sommes par la mitzvah que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que je fais équipe avec lui, que je l'invite par la mitzvah que je suis en train de réaliser. Est-ce que c'est clair? Donc ne croyez pas qu'il y a un roi qui se trouve là-haut, qui nous donne des ordres et qui est assis sur une chaise pour voir si on les fait ou pas. C'est pas ça, la mitzvah. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne une mitzvah, il est à l'intérieur de la mitzvah. Il coule à l'intérieur de cette mitzvah et il apparaît dans le monde à travers cette mitzvah. Vous saviez ça ou pas? C'est très important de le savoir. Ça veut dire une mitzvah n'est pas seulement un acte d'un homme. C'est un acte réalisé par l'homme pour le divin. Car les mitzvot ne sont pas les nôtres, ce sont les siennes. L'homme n'a pas de mitzvot, on est d'accord. Les mitzvot sont celles de Dieu. Sinon, on aurait dû dire « be mitzvotai ». Mais nous disons « asher kideshanu be mitzvotav ». Il nous a sanctifiés par ses commandements à lui. S-E-S, ses commandements à lui. Donc ce sont ces mitzvot que moi je réalise, et quand je réalise sa mitzvah, eh bien il passe à travers la mitzvah que je suis en train de réaliser, et il apparaît un petit peu plus dans le monde. Est-ce que la chose est claire? Moralité, à chaque fois que nous avons une fête, nous réalisons certaines mitzvot. En respectant ces fêtes, en respectant les halachot de la fête, en respectant ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de vivre pendant le vécu de cette fête, et en même temps qu'on respecte ces mitzvot, eh bien il y a une apparition nouvelle de Dieu dans le monde, selon la catégorie de la fête. Ça veut dire que chaque fête va apporter avec elle quelque chose de nouveau. Tout à l'heure je vous ai dit, à Pessah, la bénédiction de Dieu va rentrer où? Dans les champs. À Shavuot, la bénédiction de Dieu va rentrer dans les fruits des arbres. À Sukkot, la bénédiction de Dieu va rentrer dans les pluies qui vont tomber en Eretz Israël. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Comment Akadosh Baruch Hu fait rentrer, qu'est-ce qu'il fait rentrer dans le monde le jour de Rosh Hashanah grâce à ce que nous faisons? Alors, les mitzvot, meviot bracha beikvoten, apporte avec elles une bénédiction, un lien. D'ailleurs, le mot bracha veut dire lui aussi lien. Les havrich en hébreu veut dire se relier à. Donc quand je reçois une bénédiction, ce n'est pas une bénédiction, c'est que je me relie à Dieu. En réalité, c'est Dieu qui se relie à moi. Ube Rosh Hashanah, et le jour de Rosh Hashanah, Amirat Zichronot Lifnei Hashem, le fait que nous disions des versets qui parlent de souvenirs devant Akadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'on dit ces versets? Dans la Tfila, dans le Marzor que vous avez de Rosh Hashanah, vous avez des versets qui parlent de souvenirs. Eh bien, grâce à ce que nous disons, Goremet le'aliyat zichronam shel Israël lifnei Hashem letova. Akadosh Baruch Hu va se souvenir d'Israël grâce à ces psukim, à ces versets de souvenirs. Eh bien, Dieu se souvient de nous. Question simple. Est-ce que Dieu a besoin de ces psukim que nous disons pour se souvenir de nous? Oui ou non? Alors pourquoi on les dit, si c'est non? Pour nous-mêmes. Ça veut dire que, en réalité, tout ce qu'on fait, c'est pas pour lui. Lui n'a besoin de rien. Lui, il est parfait, il est complet. C'est déjà une entité complète, infinie. Mais tout ce que nous faisons, en réalité, c'est pour notre bien, pour que nous puissions ressentir et prendre conscience de qui nous sommes. Et pour ceci, il faut que tu parles, il faut que tu ouvres verbalement, il faut que tu manifestes ta pensée. Quelqu'un qui peut parler, qui ouvre sa bouche et qui dit les choses clairement, il devient en réalité une seule et même unité avec ce qu'il est en train de dire.
Il n'y a pas une idée de le servir, quoi.
Attends, tout doucement. Si j'étudie la Torah à voix basse, qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand j'étudie la Torah à voix basse, j'ai un manque dans mon étude. Pourquoi? Tout simplement parce que l'étude ne se verbalise pas. Elle ne passe pas par le verbe. Et lorsqu'elle ne passe pas par le verbe, par la voix de l'homme à haute voix, qui s'entend lui-même, il y a une perte. Ça veut dire, si vous voulez vous souvenir de quelque chose, dites-le. Dites-le à haute voix. Et quand vous étudiez la Torah, que vous rentrez dans une yeshiva et que vous entendez, que vous voyez des gens étudier, ils parlent tous à haute voix. Pourquoi ils ne sont pas tous tranquilles comme dans une grande bibliothèque? Ou là-bas, si tu parles, tout le monde te dit « Chut !» Personne ne parle dans une bibliothèque. Vous rentrez à la yeshiva, c'est la folie. Pourquoi? Parce que la Torah doit s'étudier à haute voix. Et quand tu sors le verbe de ta bouche, tu exprimes ta pensée par la parole, c'est déjà une construction, tu vas te retenir complètement, tu vas être à l'intérieur de ce que tu es en train d'étudier. Et d'ailleurs, les choses restent au niveau de la mémoire lorsque vous les dites. Si tu lis un roman à voix basse, ou si tu lis la Torah à voix basse, il ne reste pas grand-chose de ton étude. Donc, moralité, on a ces versets de souvenirs que nous devons exprimer par le verbe, par la parole, et c'est ainsi que ce degré monte vers Akadosh Baruch Hu. Alors tu as posé une question, est-ce que malgré tout il n'y a pas quelque chose pour le servir? Mais qu'est-ce que ça veut dire le servir? Il s'agit de savoir à quel degré nous nous plaçons par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et les sages nous disent qu'il y a 3 degrés. Où nous sommes ses enfants, où nous sommes ses serviteurs, où nous sommes son épouse. Qu'est-ce que ça veut dire? Être ses enfants, ça veut dire que Dieu nous a déjà choisis, il nous a donné son degré, et je ne peux plus rien changer. Je ne peux pas dire à mon père un jour, tu n'es pas mon père, et lui ne peut pas me dire, tu n'es pas mon fils. On a un lien naturel. Être l'esclave de Dieu ou le servir, serviteur de Dieu, c'est un degré de soumission. Le roi dit à l'esclave, au serviteur, fais ce que j'ai à te dire et tu te tais. Le jour où le serviteur peut se sauver, il se sauve. Ou alors il sert Dieu, mais il n'est pas très heureux de servir. Même s'il est très heureux de servir, il est toujours dans une position faible. Le 3e degré, la position de femme, d'épouse, de fiancée, ça c'est déjà au niveau du collectif Israël. Nous devons être un pour devenir l'épouse de Dieu. C'est le degré le plus élevé, où dans ce degré-là, Kadosh Baruch Hu choisit son épouse comme un homme choisit sa femme. Et il peut divorcer. Mais en réalité, à chaque instant, il rechoisit d'être avec elle. Vous voyez l'évolution dans ce lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est que dans le premier cas, c'est un degré qui est naturel, on n'y peut rien. Mais ça ne suffit pas. Tu peux être le fils de ton père, mais tu fais tout de force, tu n'aimes pas ton père. Tu ne peux pas annuler le fait que tu sois son fils, mais tu en as marre. Quand tu es un esclave, on sait déjà que c'est une position qui est un petit peu pas très agréable. D'être l'esclave d'eux, même si c'est un grand honneur, mais lorsque tu deviens l'épouse d'eux, alors là il y a un degré de morale. Je dois me conduire avec mon épouse avec un choix et un amour qui se renouvelle à chaque instant. Je ne peux pas considérer que je me suis marié avec mon épouse une fois, il y a quelques années, et que c'est fini, c'est acquis. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui n'investit pas dans le couple, quelqu'un qui n'investit pas dans la femme qu'il s'est marié avec, avec laquelle il s'est marié, eh bien, chas v'shalom, ce lien peut se détériorer. Jusqu'au divorce. Donc, moralité, il y a ici un investissement de Dieu envers nous et un investissement de nous envers Dieu. Ça, c'est le degré le plus élevé.
Donc, on est parmi les 3 à la fois, ou
alors,
on est idéalement les
3? On est les 3, on a les 3 degrés, mais de temps en temps, l'un d'entre eux se met en relief. Et d'ailleurs, le jour de Rosh Hashanah, on rappelle Im kebanim, im keavadim. Im kebanim, rachamenu kerachem aval banim. Im keavadim, einenu lechatluyot. Pardonne-nous. Le jour de Yom HaKippurim, on demande à Kadosh Baruch Hu, pardonne-nous, que ce soit comme des fils ou comme des esclaves. Si c'est comme des fils, pardonne-nous comme un père pardonne à son fils. Si c'est comme des esclaves, pardonne-nous comme un maître par rapport à son esclave. Et on ne rappelle pas le 3e degré parce que là, il ne s'agit plus du tout de pardonner ou de ne pas pardonner parce qu'il y a un lien beaucoup plus fort entre l'homme et la femme. Et ça, c'est un degré de l'idéal, en réalité. Ce degré, d'ailleurs, on va l'atteindre, c'est une petite parenthèse, mais qui est importante, puisque tu as posé la question, le jour de Hoshana Rabba de Simchat Torah. À la fin de la fête de Sukkot, Akadosh Baruch Hu nous considère comme son épouse et il nous dit... renvoyer tous ceux qui étaient venus à la fête. Je veux rester seul avec toi. Toi, ma bien-aimée. Et donc, il n'y a plus dans ce degré que le peuple d'Israël avec Akadosh Baruch Hu. Alors qu'on a commencé toutes les fêtes avec toutes les nations du monde. Vous savez que Rosh Hashanah, toutes les nations du monde viennent en jugement. Ce n'est pas qu'Israël. Tous les êtres sont jugés. Peut-être qu'Israël a conscience et les autres non. Mais ça ne change rien. Tout le monde est jugé. Et pendant la fête de Yom HaKippourim, c'est le jour de la grande bénédiction divine, du grand pardon concernant Israël. Mais en réalité, il y a encore un degré des nations. Et pendant la fête de Sukkot, on a porté pendant le Beth Amikdash des korbanot pour les 70 nations du monde. Ça veut dire, à chaque fois qu'on approche vers Dieu, on n'est pas seul. À la fin de toutes les fêtes, le dernier jour de la fête, qu'on appelle en Eretz Israël Simchat Torah, qui est en même temps Shmini Atzeret, en dehors d'Eretz Israël, c'est deux jours, ici c'est un seul et même jour, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous dit, Bo venismach ani ve'atem. Je veux rester seul avec toi, ma bien-aimée, l'assemblée d'Israël, enlever tous ceux qui sont en dehors. C'est fini. J'ai vu tout le monde, j'ai vu les invités qui sont venus au mariage, mais maintenant j'ai envie de me retrouver seul avec toi. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Donc je reviens à ce qu'on a dit. Akadosh Baruch Hu se souvient d'Israël grâce à tous ces versets que nous récitons pendant le jour de Rosh Hashanah et en même temps par le shofar que nous sonnons. Par contre, quand Rabbi Akiva termine ce qu'il est en train de dire, il a dit que à Pessah les champs étaient bénis, qu'à Shavuot les fruits étaient bénis, qu'à Sukkot les eaux étaient bénies, que à Rosh Hashanah quand on dit les souvenirs, alors le souvenir est béni. Mais on n'a pas vu que Rabbi Akiva nous dit quelque chose concernant la royauté. Quand on le proclame roi, il n'y a pas marqué qu'on reçoit quelque chose de bon, que quelque chose se manifeste dans ce monde, comme on a vu dans les autres cas que je viens de citer. Vetzarich Leavin, il faut comprendre, Maï Malchut, d'abord, se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire la royauté? Qu'est-ce que la royauté? Vous savez combien de fois vous répétez le jour de Rosh Hashanah Melech, Malchut, Ata Melech, Amelech Akadosh, Amelech Hamishpat, Amelech, 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 le roi, le roi, le roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous êtes posé la question, que veut dire le royaume de Dieu? C'est quand même une question très importante. On ne peut pas arriver à Rosh Hashanah sans se poser cette question, puisque tu répètes ce mot toute la journée. Maï Malchut Hashem. Donc qu'est-ce que c'est que la royauté de Dieu? Et comment est-ce que la royauté de Dieu rajoute quelque chose de bénéfique dans ce monde, comme les autres degrés? Que les champs soient bénis, ça je comprends. Que les fruits des arbres soient bénis, ça je comprends. Je le vois. Qu'il y ait des pluies, lorsqu'il faut avoir de la pluie, ça je comprends. Ça fait une bénédiction pour la récolte. Mais quand je dis que Dieu soit roi, je ne comprends pas comment ça peut... Qu'est-ce que ça apporte dans la vie? Madoua l'omuz karba braïta, et pourquoi la braïta de Rabbi Akiva ne rappelle pas Shamalchut, Shamlachat Hashem alenu mevia bracha vetov laolam, que le fait de proclamer Dieu roi le jour de Rosh Hashanah, pourquoi c'est pas marqué dans la Mishnah que ça m'apporte quelque chose, un bienfait quelconque? Pour moi, pour le monde, je ne vois pas à quoi ça sert de citer des versets de royaume. Voilà la question qui se pose. Est-ce que la question est claire? Est-ce que ce que je vous dis est clair? Ok, alors on continue. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la royauté. C'est la première des questions. Chazal limdounou. Les sages nous ont enseigné ki malchut Hashem ba'a lide bitui ba'olam beshte madrigot. Il faut d'abord comprendre et faire une synthèse des choses. Si les choses sont embrouillées dans ta tête, tu ne pourras jamais avancer dans l'étude. La royauté de Dieu se dévoile par deux degrés dans notre monde. Les deux degrés, les voici. Je vais citer le premier. Bekoma hativit. Il y a d'abord un degré naturel. Mimala lemata. Si je devais lui donner une direction, c'est du haut vers le bas. Quand je dis naturel, ça veut dire qu'il nous coule de source. La source, c'est lui, et ça nous descend dessus, ça nous vient dessus, ça nous coule de source. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créé. Il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que ce monde fonctionne. Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'on reçoive de lui ce qu'on doit recevoir de lui. Et que nous sommes vivants de par le fait qu'il veut bien nous faire vivre. Je vous pose une question simple. Dans ce degré-là, est-ce qu'on peut quelque chose ou on n'y peut rien? Vous étiez un petit peu en l'air parce que vous étiez préoccupé de voir votre ami qui rentrait. Donc vous avez raté à peu près 5 minutes, j'ai parlé dans le vide. Si j'étais un mauvais prof, je vous aurais dit, tant pis pour vous, j'avance, les gens de l'internet, eux, ils ont le chiour. Mais comme j'ai envie que vous compreniez le chiour, alors je vous fais une tova et je vous répète ce que je viens de vous dire. Le royaume de Dieu, regardez combien c'est difficile d'être concentré, parce que chaque fois que vous voyez un petit truc bouger, vous êtes sorti du chiour. Alors concentrez-vous. Le royaume de Dieu sur nous se passe en deux choses, deux formes. Une forme naturelle, c'est Dieu qui vient vers nous. C'est-à-dire, il nous a créé, il a créé le monde, on n'y peut rien. C'est tout. Il nous nourrit, il nous a créé déjà dans un monde avec des arbres, des fruits, une terre, des légumes, de quoi manger, de quoi boire, avec tout ce qu'on a besoin. Ce degré-là, c'est Dieu qui règne sur le monde d'une manière forcée. On est d'accord? On n'a rien à choisir ou à ne pas choisir. On est là. C'est lui le roi. Un point à la ligne. On n'a même pas besoin que tu lui dises tu es le roi. Il est malgré ce que tu dis ou malgré ce que tu ne dises pas. Il s'en fiche complètement de ce que tu vas dire. C'est le roi de l'univers. Il a créé l'univers. Il t'a pas demandé. Il t'a fait venir dans ce monde sans te demander. Et tu es là sans te demander. Tu vas vivre sans te demander. Tu vas mourir quand il voudra. On est d'accord. Alors je vous pose la question. Où est notre libre arbitre? C'est lui qui veut tout. Donc qu'est-ce que j'ai à faire moi ici? Je me laisse couler par la vie et c'est fini. Un jour j'ai envie de me lever, c'est lui qui le veut. Un jour j'ai pas envie de me lever, peut-être c'est lui qui le veut aussi. Pourquoi on me reproche des choses?
On est déclaré à son image quand même, mais qu'il y a eu la faute.
Qu'est-ce que c'est à son image? Il a une image?
Non, mais avec on a quand même la capacité d'évoluer, de réfléchir.
Pourquoi faire? Il y a un chat, il ne se pose aucune question.
On n'est pas comme un chat. On est...
Oui, mais il vit heureux.
Peut-être, on ne sait pas.
Il vit heureux, le chat, il a de quoi manger. Chaque poubelle, c'est un restaurant. Motsa et Shabbat, c'est le grand kiff. Les juifs mangent le triple. Donc tu le vois, le chat, il est là, il se lèche les babines, il est tranquille. Et il attend que tu viennes jeter ta poubelle. Il dit à Kadosh Baruch Hu, merci, miaou. Il y a encore un qui vient me donner à manger. Il ne travaille pas. Jamais il a des soucis, il ne fait pas des crises d'angoisse, il n'y a pas de médecin, il ne fait aucune manifestation contre quelque chose, il ne travaille pas, il se balade toute la journée, il dort la moitié du temps, et à chaque fois qu'il veut manger, il va dans une poubelle et il tape ce qu'il avait besoin de manger. Et jamais il court après des hommes, tu vois des hommes courir après des chats, mais jamais déjà après des hommes. Donc apparemment il est plus évolué qu'un homme. Apparemment. Alors, quel est ton intérêt d'être un homme? Pour te poser des questions, évoluer et te faire plus de soucis que le chat.
Non, il n'y a pas d'intérêt, c'est comme ça.
C'est comme ça. Ça veut dire, on est là, on est un petit peu foutu, on a été créé homme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Non,
quoi?
Nous, on a le choix et on peut prendre. Comme on a le choix,
Choix de quoi? C'est ça que je pose. Que quoi? De ce qu'Hachem fait pour nous. Tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu prends conscience de ce que Hachem veut de toi? Tu sais que c'est un travail. Il y a, la plupart des gens ne savent pas du tout. Mais le chat, lui, il sait comment il a été créé. Il n'a jamais changé. Il ne s'est jamais déguisé en autre chose. On est d'accord?
Le chat, lui, il agit par
instinct. Ah.
Il n'a pas de conscience.
Pourquoi il n'a pas de conscience? Il a une conscience instinctive. Ça veut dire que l'instinct chez le chat, il est actif ou passif? Non, il est actif. Son instinct est actif. La preuve, c'est qu'il est à chaque instant collé à son instinct.
Il n'a pas de libre arbitre.
Il a fait.
Il n'a pas de choix.
Il n'a pas de choix, donc il est instinctivement chat. Donc, à son niveau, c'est un tzaddik ou un rachat? C'est un parfait, il est tzaddik. Il fait la volonté de Dieu comme il a créé chat sans jamais mentir. On n'a jamais vu chien serveur dans un restaurant. Okay, ça veut dire qu'il a, en réalité, il réalise tout à fait ce qu'il est venu faire dans ce monde. Et ses mouvements sont parfaitement collés à ce que Dieu a créé. On est d'accord? Donc c'est un tzaddik. Il n'a aucun mérite. Pourquoi il n'a aucun mérite? Il n'a pas choisi. Alors vous vous dites que le mérite, en réalité, vient par le choix. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a même pas le choix. Nous aussi, on a été créés, on est là dans ce monde. On ne nous a pas demandé. Be'al kochacha atanotzar, be'al kochacha atanolad, be'al kochacha atachai, be'al kochacha atamet, be'al kochacha atatit diten din vecheshbon. Malgré toi, tu as été créé, malgré toi, tu es vivant, malgré toi, tu vis, malgré toi, tu vas mourir, malgré toi, tu vas donner des comptes.
Non, on peut prendre la direction qu'on veut dans la vie.
Voilà,
même si on va.
Quelle direction tu peux prendre ou pas?
Non, ce que nous, on peut dévier que.
Alors, je pose la question, dévier de quoi?
De la parole de Dieu. Enfin, de la volonté de Dieu.
Ok.
On peut faire le mal.
On peut faire le mal.
Je sais pas, on peut se droguer, ou alors au contraire, on peut vouloir construire quelque chose de grand, on peut juste vouloir construire une famille.
Ok. Alors, tout ce que vous dites ici, en réalité, on va essayer de l'englober dans une étude qui est très très importante parce que ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir. Le jour de Rosh Hashanah, on doit réfléchir. On ne doit surtout pas être des robots de prière le jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, ne vous mettez pas dans la tête que vous avez un grand pavé à lire, que vous devez le terminer en 24 heures, deux fois, parce qu'il y a deux jours. Et tant que je n'ai pas terminé ça, je ne suis pas quitte avec lui. Ça veut dire que tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, tu tournes des pages et tu marques un V à la fin. Oh, j'ai fini. Est-ce que tu es sûr que tu as fini ou alors tu as été une machine à lire? Il faut réfléchir le jour de Rosh Hashanah. Il faut prendre conscience de là où nous venons. Et c'est pour ça que je vous ai dit maintenant que nous avons deux degrés dans notre vie. Le premier degré, c'est celui que je viens de vous citer, c'est-à-dire le degré qui vient de lui, dans lequel on n'a aucun choix. On va le lire dans le texte et on va développer tout de suite. Donc, derecha uvda, donc nous avons une preuve, chez Akadosh Baruch Hu bara et haolam kirtsono, Akadosh Baruch Hu a créé le monde par sa volonté, ve'u mechaye oto umanigo, c'est lui qui fait vivre ce monde, c'est lui qui conduit ce monde, ve'zoi komat ateva she'amelech molech al kol haolam ve'al kocho. Ça, c'est le premier degré, c'est le royaume de Dieu par force. Il ne demande rien au monde. Dieu règne un point à la ligne. Et dans ce degré-là, aucune créature, même pas l'homme, n'a le choix. Puisque nous sommes déjà dans un jeu que Dieu a déjà créé. Donc tu n'as aucun choix d'accepter, de refuser, tu es vivant, tu es là. Tu ne peux pas contredire le royaume de Dieu parce que tu ne peux pas contredire la vie, tu es déjà là. Tu ne peux pas te poser la question. Alors, où est-ce que commence ton libre arbitre? Là, nous allons arriver au deuxième étage. Et c'est là où on va un petit peu résumer ce que vous avez dit. Ve'akoma ashnia, le deuxième étage, qui est en réalité l'étage dans lequel nous sommes, l'étage du choix, je vais l'appeler. Hi koma habechiri, c'est l'étage où on a le choix de l'homme. Beprinat ein melech belo am. Là, on commence à devenir intéressant, et là, on commence à devenir associé. Pourquoi? Dieu règne sur le monde, c'est une réalité. Dieu a créé le monde, on n'était pas là quand il a créé. Il ne nous a même pas demandé notre avis. Il a créé le monde et il règne sur ce monde. C'est lui qui le fait vivre et nous on est là, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Premier degré. Deuxième degré, tu peux aider. J'emploie des termes qui sont un petit peu compliqués, mais je suis obligé parce que nous parlons comme des hommes. Tu peux aider Dieu à réaliser son royaume sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu, véritablement, se... On peut le considérer comme étant roi lorsqu'il y a un peuple. Et les sages nous ont donné une règle. Il n'y a pas de roi sans peuple. En melech belo am. Tu ne peux pas être roi Dieu s'il n'y a pas de peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant qu'Israël ne se présente pas en tant que peuple, eh bien Dieu ne peut pas être connu dans le monde. Même s'il règne, il règne en cachette. Il règne de ce degré très caché. On ne sait pas qui il est, mais c'est lui qui gère le monde. Mais il n'est pas dévoilé dans ce monde. On ne l'a pas encore découvert dans ce monde. Même si c'est lui le roi. Lorsque le peuple d'Israël va apparaître dans le monde, Akadosh Baruch Hu, lui aussi va apparaître. On va en réalité faire une publicité pour Dieu. On va dire c'est lui qui faisait tout ça.
Actuellement, il est déjà partout.
Il a toujours été partout. Même pas actuellement. Même avant. On est d'accord. Mais est-ce que il est connu partout? Est-ce qu'on sait partout que c'est lui le roi qui fait vivre tout ça? Est-ce qu'on reconnaît sa grandeur partout? C'est ça le secret. C'est pour ça que le peuple d'Israël est là. Ça veut dire que nous sommes venus dans ce monde en tant que peuple et pas en tant qu'individu. Nous ne sommes pas des juifs individuels. Nous sommes un peuple. Nous avons été créés comme un peuple et pas comme des individus. Pourquoi nous avons été créés, dit le prophète, pour une seule chose. Pour dévoiler ce Dieu, le Dieu unique dans le monde.
Qu'est-ce qu'il en est des autres peuples qui croient aussi en un Dieu unique?
Alors, ce Dieu unique, en fait, même si il croit en lui, ne peut pas se réaliser réellement dans le monde que en passant par Israël. Moralité, les sages nous disent, et la Torah nous dit, c'est ça le secret de la Torah, c'est que Dieu, un, l'unique, l'unicité de Dieu va arriver dans le monde lorsque les nations vont accepter qu'Israël est le vecteur de ce passage. Ça veut dire que tant que les nations du monde bafouent Israël, sortent en guerre contre Israël, en réalité elles sortent en guerre contre le dévoilement de Dieu dans le monde. Et lorsque les nations du monde accepteront le peuple d'Israël comme un peuple sur sa terre, voyez combien ils ont du mal à accepter une chose aussi simple, qui n'est pas apparemment pas si simple que ça. On est en train de faire des pourparlers avec des Palestiniens qui refusent de reconnaître que nous sommes le peuple de cette terre. Et quand on demande au chef de cette bande, parce que je n'appelle pas ça un peuple, mais peu importe, quand on demande à ce chef de bandit, Ken, est-ce que tu reconnais qu'Israël est légitime sur sa terre? Il dit, ah, moi, Israël, il peut se définir comme il a envie. Mais nous, on ne peut pas le définir en tant que tel.
Donc ça ne se joue pas que pour nous. Il n'y a pas que nous qui avons un rôle important là-dedans. Donc les autres nations...
Les autres nations sont là pour en réalité recevoir Dieu. Elles aussi. Parce que, il y a fait, tout à fait. Parce que intuitivement, les nations du monde ne veulent pas perdre leur liberté de vagabondage. C'est-à-dire, les nations du monde aujourd'hui sentent qu'elles sont libres, qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, sans donner de compte au divin, sans avoir une éthique divine, sans être un homme moral. Je fais ce que j'ai envie. Le jour où on dit que Dieu est en train de descendre sur terre et que ça passe par Israël, ça veut dire que le monde doit monter de niveau. On va te demander maintenant des comptes. Alors les nations du monde, intuitivement, elles se disent « Non, non, j'ai pas envie. Laisse-moi dans la tranquillité. Je fais ce que j'ai envie, comme j'ai envie. Je n'ai pas envie que Dieu vienne m'embêter sur terre. Laissez Dieu en haut, là où il est, et laissez-moi vivre là où je suis. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et donnez à César ce qui est à César. Séparons les deux degrés. » Et nous disons « Non. Dieu est en train de descendre sur terre. Et nous le faisons passer sur terre. » Alors qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on gêne tout le monde. Donc toutes les nations du monde, intuitivement, elles nous disent « Ça, c'est l'élève, l'enfant d'Israël, le peuple d'Israël, qui nous gêne à tous parce qu'il est en train de nous faire monter le niveau de la classe. » Et nous, on a envie de glander. Nous, on a envie de se la couler douce. Et Israël est en train de nous apporter un monde avec un degré très éthique. On ne pourra pas vivre selon ce degré-là. Ça va nous demander des efforts extraordinaires. Et on n'a pas envie de bouger pour l'instant.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour actionner ce changement?
Alors, il y a fait. Pour actionner ce changement, nous devons d'abord apparaître comme une nation, en tant que telle. Puisque, j'ai dit tout à l'heure, et c'est la règle, il ne peut pas y avoir de roi sans nation. Or, une nation ne peut pas être nation si elle n'a pas de terre. Donc, le peuple d'Israël ne peut pas jouer son rôle d'Israël tant qu'il n'est pas sur sa terre. Ça veut dire que moralité, ça n'a fait que 62 ans qu'on commence à jouer véritablement notre rôle dans les nations.
Ça veut dire quoi, sur sa terre?
Ça veut dire être sur sa terre profondément. Ça veut dire tout simplement, pas seulement ça, c'est qu'il n'y a que par ce degré-là de la terre d'Israël qu'on peut en réalité apporter toute la bonté, la bénédiction au monde tout entier. Ça veut dire que le monde va bénéficier en fait de notre retour. Le monde va grandir au niveau de la science. Le monde va grandir au niveau de la médecine. Le monde va grandir au niveau de la technologie. Le monde va grandir dans tous les domaines de la vie parce qu'Israël est en train de revenir sur sa terre. On y est déjà. C'est pour ça que la Géoula a déjà commencé.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que tous les Juifs du
monde. Non, c'est un processus. On espère que la plupart, bien entendu, on a envie que tous les Juifs soient ici, parce que c'est une mitzvah. C'est pas une demande. C'est une réelle mitzvah que le peuple soit sur sa terre pour jouer son rôle. Et on ne sait pas exactement comment ça va se faire, mais tu as raison, ça a déjà commencé. Ça veut dire que la Géoula, la rédemption d'Israël, n'est pas un jour, c'est un processus. Donc ça fait 62 ans que nous sommes dans la Géoula, véritablement qu'elle a commencé. On est à l'intérieur, bien, bien dedans. Et maintenant, ce que nous attendons, ce n'est pas la Géoula, c'est la Géoula Shlema. C'est-à-dire de finir, de terminer le processus par le dévoilement du Mashiach, par la construction du troisième temple, et ainsi de suite. Pour l'instant, on ne voit pas encore la bonté dans le monde parce que le temple n'est pas construit. Le jour où le troisième temple de Jérusalem sera construit, il y aura une bénédiction dans le monde entier. Il y aura un bienfait dans le monde que les nations du monde vont se dire « Mais pourquoi on a été aussi aveugle de ne pas aider le peuple juif de le faire avant ?» On n'a pas pris conscience de ce trésor.
Qu'est-ce qui peut les convaincre? Parce que finalement, c'est l'action que eux doivent mener.
Tout à fait. Alors, le jour de notre retour, comme on est en train de le faire maintenant, et ça prend du temps, ce sont des années, le peuple d'Israël va enseigner en réalité au monde ce que représente la morale divine. C'est ça notre rôle. Nous devons sortir la Torah de Dieu qui mitzion tetzé Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim. Nous devons proclamer au monde qu'est-ce que c'est que vivre selon une morale divine. Moralité, vous voyez que nous sommes comme un exemple, mais un exemple dangereux puisque toutes les nations du monde maintenant, intuitivement, elles savent que nous sommes les anges et à chaque fois elles viennent nous coincer. Ah, vous voyez comment vous êtes à l'armée? Vous voyez ce que vous faites ici? Vous voyez ce que vous faites là-bas? Pourquoi elles sont comme ça après nous? Jamais on a vu dans les informations qu'on vient dire aux Chinois comment ils se comportent, ou aux Russes, ou aux Japonais, alors qu'il y a des milliards. Pourquoi toutes les informations parlent d'Israël? Parce que les nations attendent de nous de jouer notre rôle. Et chaque fois que le peuple d'Israël fait quelque chose, ou qu'un juif qui représente le peuple d'Israël fait quelque chose, eh bien, les nations elles disent, tu as vu le juif, comment il se comporte? Tu as vu ce qu'il a fait? Tu as vu ce qu'il est en train de faire? Lui, il est censé être notre référence. Donc, il doit bien se conduire. Donc, toutes les nations du monde nous font à chaque fois, nous. Attention, vous êtes le représentant de la morale divine sur Terre. Donc, vous devez vous comporter en tant que tel.
Mais déjà, leur jugement, il n'est pas objectif.
Il n'est pas objectif. Tout à fait. Parce qu'encore une fois, ça revient à la question qu'il a posée, ça gêne. Pour l'instant, ça les gêne, mais tout doucement, la conscience du monde va accepter en réalité que nous avons un rôle à jouer. Ils vont nous laisser jouer ce rôle. Tiens, ça prend du temps. Tiens.
Ça gêne surtout ceux qui ont corrompu le message du judaïsme.
Tout à fait.
La chrétienté et
tout à fait.
Qui ont corrompu.
Tout à fait.
Surtout, ça les gêne.
Bien entendu, je ne parle que de ça, mais je ne voulais pas mettre les termes, mais vous les avez mis, bien entendu. Tout ce qui est sorti du judaïsme, tout ce qui est sorti une branche du judaïsme qui a refusé en réalité ce degré-là, pour mettre un autre état en place, une autre forme en place, que j'appelle une religion, alors que nous ne sommes pas une religion. Une religion, c'est une création humaine, alors que nous sommes une création divine, c'est pas pareil. Eh bien, c'est... branches qui sont sorties du judaïsme sont beaucoup plus récalcitrantes, beaucoup plus dures avec nous que les autres, parce que ça les gêne, et tout doucement c'est en train de s'effondrer, puisqu'elles ont dit que nous étions maudits par Dieu. Et la preuve que nous sommes maudits par Dieu, nous ne pouvons pas rentrer sur notre terre, et nous sommes revenus sur notre terre, donc elles ne savent plus quoi faire. Et après elles ont dit, bon, ils sont revenus sur leur terre, mais ils n'ont pas véritablement Jérusalem. Et quand on est revenu à Jérusalem, c'est encore un os dans leur gorge, parce qu'ils ne savent plus quoi faire maintenant. Ça veut dire qu'ils ont voulu toujours, eux, ces autres degrés, elles ont toujours voulu, elles, ces autres nations, être Israël. Le vrai Israël. Verus Israël. Comme elles se définissent elles-mêmes. Nous, nous sommes le faux Israël à leurs yeux. Mais le vrai Israël, c'est celui qui va rentrer sur sa terre. Le vrai Israël, c'est celui qui va reconquérir Jérusalem. Et ce n'est pas elle, c'est nous. Nous avons une preuve de facto sur le terrain maintenant. Donc les nations du monde maintenant sont en train tout doucement, malgré elles, reconnaître le fait que nous sommes le peuple d'Israël initial, le vrai.
C'est toujours une
minorité. Peu importe, c'est en train de grandir. Il y a une reconnaissance, même de la chrétienté, de plus en plus. Même si c'est timide au départ, je te l'accorde, ce sont des avancées tout doucement. Et il y a de moins en moins de chrétiens pratiquants dans le monde. Okay? Pourquoi? Parce que c'est en train de s'effondrer. Tout simplement. Okay.
Quels sont les tenants et les aboutissants qui ont amené à cet état de fait là et ce rapport...
Tout simplement, Dieu a un temps. Le monde a été créé pour un temps bien déterminé. Et lorsque ce temps arrive à terme... Akadosh Baruch Hu ne peut pas rater sa création du monde, donc il va faire en sorte d'apparaître. Donc il va y avoir, et c'est possible, des accélérations de cette manifestation dans le monde. Des choses qui vont aller très 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 vite. Et n'oubliez pas que nous rentrons aujourd'hui, demain, donc Rosh Hashanah, demain soir, dans une nouvelle dizaine d'années. C'est une nouvelle ère. Okay? Ça veut dire qu'il y a une accélération des choses, et les choses peuvent prendre ce qui devait prendre 50 ans, 100 ans avant, peut prendre un an, maintenant. Okay.
Il y a toujours eu, depuis des siècles et des siècles, le fait qu'on n'arrive pas à nous, en tant que juifs, à faire passer ce message.
Tout à fait, mais tu sais pourquoi? Parce que nous n'étions pas sur... Non, parce que nous n'étions pas sur notre terre. C'est ça la clé. La clé du passage entre la Galoute et la Géoula, c'est le fait de créer un état et de revenir sur cet état.
Ça,
c'est une accélération extraordinaire. C'est la plus grande des choses qui se soit passée pendant ces 200 dernières années. Tout à fait. Oui, mais on a maintenant un rôle à jouer dans le monde et on est revenu sur notre terre. C'est une prophétie qui est en train de se réaliser. Et ça, c'est la plus grande des choses qui s'est réalisée. D'ailleurs, le Rambam, quand il parle de Teshuvah ou de messianisme, ne parle que de ça. Quand tu prends le livre des rois, au chapitre 11 du Rambam, quand il te dit que la Géoula, comment est-ce que tu peux la regarder, la Géoula? Est-ce que tu vas savoir qu'il va y avoir la Géoula? Comment est-ce que tu peux savoir que la Géoula est là? Rambam, il te dit, il y a un seul verset. Quand le peuple d'Israël reviendra sur sa terre. C'est tout. C'est de ça que parle le Rambam. Ça veut dire le Rambam parle du sionisme comme le dévoilement de la Géoula, la chose la plus claire qui puisse exister. Et lorsque le peuple revient, tout fleurit. Tu t'es jamais posé la question pourquoi pendant 2000 ans il n'y a rien eu ici? Et dès que le peuple revient, tout fleurit. Tu vois bien l'accélération de construire un pays en 62 ans, ce que les nations du monde mettent 700 ans pour construire.
Et quand vous avez dit tout à l'heure, il faut pas être des individualités, il faut être un...
Tout à fait. Il faut d'abord apparaître en tant que peuple, comprendre
déjà
toi
ça,
maintenant.
Déjà ça, on l'a pas.
Si, on l'a. On l'a. On l'a. Peu importe, on est en train de le récupérer et la chose qui est aujourd'hui la plus vraie, c'est l'armée. Un soldat d'Israël donne sa vie, est prêt à donner sa vie pour la nation tout entière. Quand cet amour-là, même s'il ne comprend pas le soldat, mais il le fait, va se répandre sur toute la nation, ce degré qui se trouve dans l'armée, où un homme de gauche et un homme de droite, un religieux et un non-religieux se battent ensemble, avec une amitié qui se crée entre eux, okay? Quand ce degré-là va se répandre sur le reste de la nation, on va avancer. Mais c'est un processus.
Les gens qui sont en dehors d'ici, ils ne pensent pas forcément comme ça.
Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut réveiller les consciences. C'est pour ça que nous faisons des cours aussi sur Internet, pour répéter à nos frères qui se trouvent en tant qu'à l'extérieur, que le judaïsme n'est pas une religion. Ce n'est pas un nombre de mitzvot que tu dois appliquer pour marquer un V devant Akadosh Baruch Hu. Il faut d'abord être une nation sur sa terre, venez nous rejoindre, et ici on va développer tout ce degré, Baruch Hashem, de toute cette Torah et de ces mitzvot. Parce que l'avenir est ici, pour le peuple, c'est notre nature, c'est tout. Ken, tu avais une question tout à l'heure.
Ouais, je voulais dire que vous avez dit que les chrétiens, ils en avaient de moins en moins,
Non, pratiquant, pas croyant. Tout à fait. Les musulmans sont en réalité dans un degré encore plus primitif. Okay? C'est un autre degré complètement. C'est une croyance qui est basique. Okay? Ce n'est pas, chasbé shalom, pour parler du mal. Okay? C'est un degré qui existe en réalité. Et encore une fois, ils ne sont pas en réalité ovdei avodazara. Ce ne sont pas des idolâtres comme les chrétiens. Dans la chrétienne, il y a un degré d'idolâtrie qui n'existe pas dans l'islam. L'islam croit en un Dieu unique. Okay? C'est encore un autre degré, mais ce n'est pas aussi dangereux. L'islam est beaucoup moins dangereux que la chrétienté pour Israël. Okay? Parce que, en réalité, la chrétienté utilise l'islam comme un paravent. Mais la chrétienté, elle fait un travail par-dessous. En tout cas, elle l'a fait jusqu'à aujourd'hui, avec tous les pogroms et les inquisitions et tout ce qu'il y a eu. C'était là où le véritable danger. Les juifs ont vécu très bien dans les pays arabes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans les pays arabes avec beaucoup moins de dangers. Je parle de danger d'assimilation et de prendre, de voler en réalité l'âme d'Israël, comme ça a été fait dans les pays d'Europe. Okay? C'est beaucoup plus sous-jacent. Il y a un danger qui est beaucoup plus grave. Okay? Les sages considèrent la chrétienté comme un cochon qui montre ses pattes, qui en réalité montre qu'elles sont cachères, comme un animal cachère parce qu'il y a une ouverture, mais qu'à l'intérieur, en fait, il y a tout un degré qui rumine, qui ne rumine pas en réalité, mais qui est un degré négatif, okay, contre Israël. Pour dire les choses, les sages nous disent que Esav, c'est la chrétienté en réalité. Cinq secondes. Esav, c'est la chrétienté. Et la chrétienté, représentée par Esav, Esav dit, le jour viendra où mon père va mourir, et je tuerai mon frère Yaakov. Et le texte dit, Esav dit dans son cœur. Et les sages nous disent qu'en réalité, le chrétien ne te le dit pas en face. Il le dit dans son cœur. Et c'est ça le plus grand danger. Alors que le musulman te le dit en face. C'est beaucoup moins grave. Ok ?
Vous ne croyez pas que c'est dangereux quand même de faire des généralités ?
Bien sûr que c'est dangereux de faire des généralités. Nous sommes obligés d'étudier, okay, pour essayer d'avancer, pour essayer de comprendre quel est notre rôle. Moi, je suis rentré maintenant.
Ces forces-là, on les retrouve partout, okay, quoi, dans chaque culture.
C'est vrai. Ces forces, on les retrouve dans chaque culture. Mon but, c'est pas d'aller rabaisser une nation ou une autre. Okay? Mon but, c'est ce que nous sommes, ce que nous devons faire. Et au contraire, je mets toute la responsabilité sur Israël et pas sur les nations du monde. Elles font ce qu'elles ont à faire. On ne demandera jamais à un chrétien de devenir juif. On n'a pas besoin de ça. Il doit être un bon chrétien. On ne pourra pas demander à un japonais ou à un musulman de devenir juif. Ce n'est pas notre rôle. C'est pour ça qu'on ne va pas convertir des gens. Au contraire, on les respecte telles qu'elles sont. Mais nous, le peuple d'Israël, tant qu'on ne commence pas à jouer véritablement notre rôle, alors le reproche, c'est sur nous-mêmes. Et si on ne joue pas notre rôle, eh bien les nations du monde ne nous respecteront pas. Ça veut dire que si
on a...
Non, on est déjà le peuple élu, on a déjà reçu, ça c'est la première base, et la deuxième base, celle que je n'ai pas encore développée, mais le cours est déjà terminé, c'est que nous, en tant que nation maintenant, en tant qu'individu, on doit faire sortir ce choix du divin sur nous pour le réaliser. Et c'est seulement dans ce degré-là que nous avons le choix. C'est-à-dire, quel est notre choix, je résume, c'est de réaliser ce que Dieu a déjà choisi. On est en train. On est en train de le sortir, puisque nous sommes revenus sur notre terre, puisque nous sommes en train de revenir à l'amour de nous-mêmes, de notre peuple, puisque nous sommes en train de réaliser la Torah, nous sommes en train de revenir vers nos racines, et il y a un retour extraordinaire dans le peuple d'Israël, je ne sais pas si vous le voyez, un retour extraordinaire. Et c'est à ce moment-là qu'on commencera à émettre cette émission aux nations du monde, que nous aimons d'ailleurs. Les nations du monde ne sont pas haïes par Israël. Elles sont aimées par Israël et on doit aider les nations du monde à sortir elles aussi de leur exil.
Donc nous, on a déjà échoué dans cette mission.
On n'a pas échoué.
On
n'a jamais pu le faire. On a été étouffé. On a pris le choix de commencer à réaliser notre vie à partir du moment où nous sommes revenus ici sur notre terre. Et tout doucement, nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train de construire toute la structure qui nous est nécessaire pour commencer à véhiculer notre message. À l'époque du deuxième temple, c'était une ratée, ce n'était pas encore un royaume définitif. Donc il y a en fait des montées, des chutes, des montées et des chutes, mais à chaque fois on monte un petit peu plus haut. Okay? Comme un enfant qui commence à marcher, au début il marche, il tombe, il remarche, il tombe, on ne va pas dire que ça a été dératé. Ça fait partie de son apprentissage. Son parcours fait de monter et de descendre. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, mais je répète, je conclue pour n'y ait pas de mauvaise compréhension. Nous sommes là pour les nations du monde. Le temple de Jérusalem est pour les nations du monde et pas seulement pour des juifs religieux. Seulement aujourd'hui, les nations ne sont pas encore tout à fait prêtes à le reconnaître d'une manière globale. Il y a des groupes que oui, okay, mais nous sommes en train d'aller vers cela. Et notre but, c'est d'amener la parole de Dieu à ces nations du monde parce qu'elles ne font pas, elles font partie de la terre.
Il y a des gens aussi de chez nous qui prennent
tout à fait, tout à fait. Nous aussi, on doit convaincre d'abord nous-mêmes. On doit faire un travail sur nous-mêmes, c'est ce que je suis en train de dire, pour ensuite être capable de convaincre les nations. Et tout ceci ne viendra pas par une brutalité, par forcer les nations, mais au contraire par une parole divine, par une parole de paix, par une parole d'amour qui doit sortir de cette nation pour les nations du monde. Ki beiti bet tefila ikare lekol ha'amim, mon temple de Jérusalem est un temple pour toutes les nations du monde. Les nations du monde vont venir à Jérusalem apporter leur sacrifice. Et c'est en réalité un grand amour. Le problème, c'est que ça passe aujourd'hui par des guerres. Mais tout ceci, c'est une conscience. À Rosh Hashanah, c'est tout ce qui se met en place pour l'année qui va venir. Alors je souhaite à vous tous une bonne année. Je nous souhaite une bonne année. Je souhaite aux nations du monde tout entière une bonne année. Parce qu'en réalité, lorsqu'elles vont prendre conscience que nous ne sommes pas les ennemis de l'humanité, mais au contraire, on vient pour apporter une lumière à l'humanité, et ce n'est pas de l'orgueil. On a reçu ce rôle, on n'y peut rien. Au contraire, se sauver de ce rôle, c'est renier ce que nous sommes. Je joue le rôle que Dieu m'a donné, je n'y peux rien, je ne peux pas me sauver de lui. Alors je demande aux nations du monde, acceptez, essayez, donnez-nous l'occasion de vous montrer que le monde va être meilleur avec cette théorie-là, avec ce degré-là. Ken. Yafet, c'est ce que je viens de dire. Alors c'est ça le meilleur bien qui puisse exister. C'est qu'à Rosh Hashanah, si on le proclame roi, si on arrive à devenir le peuple qui le proclame roi, eh bien le royaume de Dieu sur terre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un Chinois en Chine va planter une tomate, elle va pousser, elle va être merveilleuse, elle va avoir un bon goût. Grâce au fait que le royaume de Dieu est descendu sur terre par l'intermédiaire d'Israël. C'est-à-dire le monde entier va être bénéfique, va bénéficier de cette bracha. Et c'est ça ce qu'on fixe le jour de Rosh Hashanah, pour l'année à venir. Shana Tova.